Vous écoutez Carrière Talk, le podcast dédié 100% à propulser votre carrière au niveau supérieur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Écoutez, ma foi, un autre sujet délicat. Aujourd'hui, on parle de la prévention contre les environnements de travail toxiques. Pour moi, ce n'est pas un sujet, c'est une cause. Et c'est une cause qui est underrated dans le sens où on n'en parle pas souvent. Elle est mise dans la catégorie sensible, délicat, touchy, on ne sait pas comment faire avec ça, c'est n'importe quoi, on laisse ça passer. Donc moi personnellement c'est une cause qui me tient vraiment à cœur sur le plan personnel et professionnel et c'est pour ça que j'en parle. D'ailleurs j'en ai parlé dans mes réseaux il y a quelques semaines ou bien quelques mois et j'ai eu beaucoup de retours, même des personnes qui m'ont dit que c'est un sujet tabou, alors que pour moi c'est une cause qui est noble et c'est une cause qui est réaliste et beaucoup plus pratique et qui reflète la réalité du milieu de travail. Dernièrement, en fait, dans le domaine du workplace, on en parle trop de l'inclusion, de la diversité, on parle de la fidélisation des employés, comment cultiver une culture d'entreprise qui est positive et saine, comment fidéliser cet employé, puis le rendre heureux, etc., etc. Mais on ne parle pas d'une des causes de tout ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui cause le turnover? Ben, une des causes, et je dirais la plus grande cause, c'est les environnements de travail toxiques. Donc à ce moment-là, il va falloir prendre le taureau par ses cornes et aborder ce sujet, puis essayer d'en parler plus souvent. Alors, donc c'est ça, aujourd'hui je vais, peut-être sur le titre, vous allez voir The No Asshole Rule, ou bien Objectif Zéro Sale Camp. Alors non, c'est pas du sarcasme, je ne suis pas en train de devenir folle ou quelque chose comme ça, mais vraiment, c'est des études qui ont été faites et c'est une règle qui existe réellement. Donc dans cet épisode, je vais parler un petit peu comment intégrer tout ça dans les pratiques de recrutement pour les employeurs, mais aussi on va parler des indicateurs, comment prévenir, on va parler de cette règle, hein, de No Asshole Rule, etc. etc. Donc ça, c'est pour les employeurs, mais aussi pour les employés qui m'écoutent aujourd'hui. Ben, ça va vous donner un peu de recul, ça va vous donner aussi des indicateurs pour pouvoir cerner un environnement de travail toxique de 100 km. Comme ça, voilà, vous êtes prévenus, vous êtes vaccinés. Donc c'est ça. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez avec moi. Alors pour commencer déjà, c'est quoi un environnement de travail toxique? Comment faire la différence? C'est-à-dire d'une façon factuelle qui est basée sur de la réalité et non pas sur des aspects personnels. Parce qu'en fait, il y a une différence entre un environnement de travail toxique qui est réellement toxique et un environnement de travail qui est toxique pour vous, par exemple. Parce qu'en fait, chacun a son avis personnel sur les environnements. Et en fait, quand quelqu'un te dit que c'est un environnement de travail toxique, ben à ce moment-là, c'est personnel. Parce que peut-être selon lui, selon sa perception, selon ses affinités à lui, selon comment est-ce qu'il a pu ou pas développer ses capacités professionnelles et ses compétences dans cette entreprise, qui va juger que c'est une entreprise qui a un environnement de travail toxique. Donc il faut juste faire la nuance. Aujourd'hui, on va parler des indicateurs des environnements de travail toxiques, c'est-à-dire des indicateurs qui sont basés sur des faits et des réalités et non pas sur des perceptions ou des points de vue personnels. Okay. Donc pour faire la différence, simplement, je vais vous décrire c'est quoi un environnement de travail toxique réel. Et puis, vous allez vous-même savoir, est-ce que, voilà, vous allez faire la différence entre les deux. Donc, en fait, un environnement de travail toxique, c'est un environnement où la plupart des membres ou bien des employés ou des boss, des managers, ont une attitude qui est négative, qui est générale et qui est assez prononcée. C'est-à-dire, ils ont une attitude négative envers certains employés. Ok, si c'est un manager ou un boss, donc il est tout le temps en train de se plaindre sur les autres employés, sur leur incompétence, sur le manque d'expertise, sur les deadlines, sur les clients, sur la difficulté à travailler avec ce fournisseur. En fait, tout le temps axé sur les points négatifs, que ce soit des autres ou bien de leur propre travail. Donc ça, c'est le premier indicateur. Deuxième indicateur, c'est bien évidemment quand il y a des comportements qui sont négatives, c'est-à-dire des comportements entre les employés ou bien entre les managers, boss et employés qui ne sont pas saines. C'est-à-dire, on parle de comportements de maltraitance, d'humiliation, d'harcèlement mental, d'harcèlement physique. Ça peut être vraiment toutes sortes de maltraitances. L'harcèlement mental et psychologique, c'est le plus courant. Comment ça se manifeste? Ça se manifeste par un sarcasme qui n'est pas accepté par les autres, mais qui est quand même exercé. Ça se manifeste par des bad jokes. Ça se manifeste par par une humiliation. Ça se manifeste par un malaise, c'est-à-dire que voilà, les employés entre eux ou bien entre le manager et les employés, il y a un petit malaise vu qu'il y a une maltraitance, il y a un mauvais comportement. Donc habituellement, c'est ça les environnements qui sont toxiques. Okay, donc c'est ça les indicateurs. Donc s'il y a l'un ou l'autre, donc s'il y a une attitude négative ou bien des comportements qui sont pas sains, bah, à ce moment-là, c'est considéré directement comme un environnement de travail toxique. Donc moi, par expérience, je pense que j'ai vécu un petit peu les deux. J'ai vécu un petit peu tout type de comportement qui est hors norme dans les organisations dans lesquelles j'ai travaillé dans le passé. C'est pour ça que c'est, voilà, c'est une question qui m'interpelle beaucoup et c'est une question qui peut être rendue tangible. Donc non, c'est plus un sentiment personnel envers les autres, c'est plus... un environnement de travail toxique, c'est pas juste les affinités entre les gens. C'est pas, ah oui, telle personne pense que c'est un environnement de travail toxique, elle part chez, chez les ressources humaines pour se plaindre et elle dit, ah non, j'ai un malaise avec cette personne, je me sens toujours oppressée et humiliée avec cette personne-là, ce manager, ce boss ou ce membre de l'équipe. Les ressources humaines ont tendance à prendre ça à la légère et à dire que oui, c'est la perception de la personne et c'est personnel, c'est des problèmes d'affinité, c'est des problèmes entre les personnes. Ben non, pas du tout. Moi, je crois pas. Je fais partie des gens qui pensent que oui, il y a des affinités personnelles, mais si on a une équipe de ressources humaines qui est vraiment smart, qui sait faire son travail et qui est formée dans ce milieu d'une façon convenable, elle saura faire la différence entre une plainte qui est personnelle et réellement détecter des comportements qui sont toxiques au sein de l'équipe. Donc c'est un point qui est très très important et je pense que c'est un point tangible. On n'est pas vraiment juste dans la psychologie où on risque de se perdre. Donc ça peut être enseigné, puis ça peut être encadré et les ressources humaines peuvent être formées. Alors, donc là, on a parlé de l'attitude négative, on a parlé des comportements d'oppression, d'harcèlement, etc., etc. Donc, les comportements de maltraitance, les comportements malsains en général. Dans cette même catégorie, spécialement dans les comportements, comment reconnaître ça ? Habituellement, l'environnement toxique vient des gens, ok ? La toxicité vient des gens, donc ça vient pas de l'environnement, ok ? Donc, ça vient pas de l'air, de l'oxygène, ça vient des gens. Okay, ça vient des employés eux-mêmes, donc ça vient des employés et des managers. C'est eux qui créent la toxicité, qui commencent à créer la toxicité, mais ça vient beaucoup plus des gens qui ont des positions de pouvoir et de leadership. Donc on va parler des employés ou bien des profils qui ont le syndrome du bis. Alors c'est quoi le syndrome du bis ? C'est un petit peu ce que le professeur Robert Sutton appelle « the asshole ». Donc c'est la soif du pouvoir, c'est l'avidité du pouvoir. Donc c'est une vraie maladie, hein, dans le sens où il y a des mécanismes hormonaux chez ces personnes-là qui affectent la chimie de leur cerveau et qui les rendent comme ça. Donc comment ça se manifeste ? Donc ça se manifeste bien évidemment par ces comportements de maltraitance. Habituellement, ces gens-là ont une perte totale d'empathie et d'intérêt pour les autres, ont un narcissisme extrême, ont un sentiment d'invincibilité qui conduit à prendre des risques inutiles. Donc, c'est des personnes qui sont beaucoup plus centrées sur leur personne, et qui sont consommées par leur personne et par leur ego. Aussi, des fois, c'est des personnes qui peuvent avoir un sentiment d'impunité, c'est-à-dire que c'est des personnes qui se sentent au-dessus des règles, qui ne se sentent pas concernées par les règles, qui se sentent vraiment en position de pouvoir et qui en abusent. Alors, dans cette catégorie de profils, ça recoupe aussi les pervers narcissiques, donc on va les mettre dans cette même catégorie. Donc, les pervers narcissiques, selon moi, sont atteints de syndrome du bis. Donc, c'est ça. Donc, c'est ces personnes-là qui commencent à créer la toxicité. Et pour parler de... tout à l'heure, on va parler de la prévention. On va parler de comment prévenir ces personnes-là, comment détecter ce genre de profil dans le processus de recrutement, c'est-à-dire comment le faire réellement. C'est-à-dire on the ground. Parce que c'est ça qui m'intéresse. Moi, aujourd'hui, en tant que personne qui est animée par cette cause, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de trouver des process et de trouver une manière, une pratique qui peut être enseignée, qui peut être encadrée et institutionnalisée pour pouvoir la pratiquer, okay, au sein des équipes des ressources humaines. Alors, pour revenir au sujet, les profils qui ont le syndrome du bis, ça peut être aussi des membres de l'équipe. Donc, ce n'est pas juste des personnes qui ont accès au pouvoir ou bien qui ont des positions de pouvoir et de leadership. C'est des personnes qui peuvent aussi être des personnes simples, des membres de l'équipe. Donc, comment les reconnaître? Habituellement, ce sont les personnes que vous voyez dans les couloirs qui se comportent comme des stars et qui sont concentrés obsessionnellement à développer leur pouvoir dans l'équipe. Leur particularité, c'est la maltraitance des personnes qui n'ont pas de pouvoir, l'arrogance et l'inconduite. Donc habituellement, c'est des personnes qui sont acceptées au sein de l'entreprise. Et c'est ça qui crée le déclic. Et c'est ça qui fait qu'on les accepte. Et c'est ça qui fait qu'on parle de cause, de prévention contre les environnements de travail toxiques. Parce que si c'est un phénomène qui n'est pas accepté dans les entreprises, on n'en parle pas. Okay? Donc il faut savoir que c'est des personnes qui sont les plus acceptées au sein de l'équipe. C'est un petit peu les personnes qui se comportent comme des stars, qui se croient tout permis, qui arrivent à développer vraiment des liens avec les gens qui ont du pouvoir. Je ne parle pas dans le sens positif du terme, mais je parle dans le sens obsessionnel du terme. Donc c'est des personnes qui vont maltraiter tous les autres membres de l'équipe et qui vont être vraiment axées juste et seulement sur le pouvoir. Ok ? Donc il faut faire la différence. Donc parlons maintenant du livre Objectif Zéro Sale Compte de Robert Sutton, qui est professeur à l'université de Stanford et qui a réalisé des études poussées sur ce sujet, qui montrent les conséquences d'accepter ce genre de profil dans son entreprise. Donc, alors, les études qu'il a faites citent que les employés qui sont face à des supérieurs ou à d'autres employés qui les oppressent démissionnent plus fréquemment et que les autres qui restent ressentent moins de satisfaction au travail, moins de joie de vivre, s'engagent peu vis-à-vis de leur employeur, sont davantage sujets à la dépression, à l'anxiété et au burn-out. Donc moi, personnellement, je dis, au lieu de penser comment augmenter les récompenses, les vacances, le gym membership, la flexibilité, comment donner plus d'espace d'expression pour son employé, toutes les pratiques qu'on fait, tout ce qu'on investit en général pour la fidélisation de l'employé, avant de faire tout ça, ce qui est excellent, mais avant de faire tout ça, pensez juste déjà à nettoyer ce genre de profil de votre organisation, parce que je pense que c'est ça va faire toute la différence. Parce qu'en fait, vous pouvez investir tout l'argent du monde et vous pouvez donner toutes les récompenses et toutes les vacances et voilà, toute la flexibilité à vos employés, mais si vos employés sont face à des supérieurs ou à des membres de ce type, c'est-à-dire à des assholes, ben, vous ne pouvez pas les garder. Okay? Donc ça, it's a fact, c'est un fait. Dans le livre, en fait, il dresse également la liste d'une dizaine de comportements dégoûtants, typiques des sales camps. Donc, vous pouvez trouver insultes, violations de l'espace personnel, contact physique non sollicité, menaces, sarcasme, injures, humiliation, moquerie, interruption, médisance, regard vindicatif, rebuffade, etc., etc. Donc ça, on a déjà parlé des comment les détecter, mais ça, c'est les comportements qui ont été écrits par Robert Sutton. Donc, ça, c'est à prendre en considération. Mais il est parti encore plus loin, ce Robert. Il a créé ce qu'on appelle un indicateur qui s'appelle le TCA, le Total Cost of Assholes. C'est un indicateur qui va permettre aux entreprises de chiffrer le coût, okay, ou bien les conséquences d'avoir un asshole au sein de son entreprise. Donc, pour pouvoir chiffrer cet indicateur, plusieurs éléments devraient entrer en ligne de compte. Donc, on parle du nombre d'heures que les managers et les professionnels des RH consacrent à la gestion des sales camps, les coûts engendrés par la perte de clients, les frais juridiques potentiels dus aux poursuites à leur encontre et principalement les coûts de recrutement et de formation de nouveaux salariés pour remplacer ceux qui démissionnent à cause d'eux. Parce qu'en fait, là, j'ai envie de dire que ça coûte cher en tabarnak d'avoir un asshole dans l'équipe. Et puis, Robert Sutton a essayé de son mieux de le démontrer en chiffrant et puis en donnant un indicateur pour voir les choses claires. Maintenant, si on parle de comment prévenir, donc ce qui est recommandé, c'est que dès la phase de recrutement, on ne tolère pas les personnalités prédisposées à développer le syndrome du bis ou bien les personnalités arrogantes en général. Robert Sutton, dans son livre, recommande d'appliquer sa règle d'objectif zéro sale camp, the no asshole rule, c'est-à-dire à intégrer cette règle dans le processus de recrutement carrément. Donc, comment est-ce qu'il a fait? Il a indiqué deux tests permettant aux recruteurs d'identifier les salcans durant leur période d'approbation, c'est-à-dire les 3 premiers mois. Donc, le premier test, c'est après avoir rencontré le candidat, les autres personnes se sentent-elles oppressées, humiliées ou plus mal à l'aise qu'avant? Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut garder dans son recruitment cycle ou bien dans ses pratiques de recrutement. C'est quelque chose à voir durant la période d'approbation. Le deuxième test, c'est le candidat cible-t-il des personnes qui ont moins de pouvoir que lui? Donc ça, c'est la deuxième composante que Robert Sutton juge très intéressante pour pouvoir détecter ce genre de profil. Donc il y a d'autres, bien évidemment, il y a d'autres façons de prévenir un environnement de travail toxique, comme essayer le maximum de favoriser la diversité et l'inclusion. Moi, je dirais beaucoup plus l'inclusion, parce que le processus d'inclusion, c'est le processus qui est généralement oublié au sein des entreprises. On est trop axé sur la diversité, mais moi, en tout cas, personnellement, je pense que la diversité, c'est une vitrine. Ce qui est le plus important, c'est vraiment de se concentrer sur le processus d'inclusion, parce que c'est ça qui fait la différence. Ça sert à rien d'avoir la diversité sans l'inclusion. Donc ça, c'est un point très, très important. Un deuxième point serait peut-être de décentraliser le pouvoir, parce que ça, plus le pouvoir est concentré dans les mains d'une seule personne, plus il peut donner un sentiment de toute puissance à cette personne-là. Un dernier point serait aussi d'encourager l'expression de la vulnérabilité, spécialement pour les leaders et les managers, puis dans la communication de l'entreprise. Donc peut-être avoir une communication qui est beaucoup plus transparente et réaliste, puis d'avoir aussi voilà, de normaliser la vulnérabilité qui est de montrer ses faiblesses, ses limites, parce que c'est ça qui va renforcer la cohésion d'équipe. Puis ça va vraiment renforcer la collaboration et la coopération surtout. Donc ça peut être complètement un autre sujet sur la vulnérabilité, parce que je sais que plusieurs personnes, spécialement les managers et les leaders, ne croient pas en l'expression de la vulnérabilité. C'est un sujet qui est un peu spécial, mais par contre, les leaders positifs qui savent vraiment exprimer la vulnérabilité au sein de leur entreprise, ça donne des résultats incroyables. Donc peut-être ça pourrait discuter dans un autre épisode. Mais c'est ça. En gros, c'est ça un petit peu les points pour prévenir un environnement toxique. Peut-être un dernier point qui est d'encourager une culture d'apprentissage, parce que quelqu'un qui est dans une posture d'apprentissage, il a aussi la posture d'humilité. Donc là, ça aide vraiment dans l'équipe, ça peut vraiment donner cet aspect, cette énergie de collaboration. On est tous en train d'apprendre ensemble, il n'y a pas de compétition réellement, donc ça peut vraiment favoriser un environnement très sain et positif. Alors, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis, vos perceptions. Ça me ferait toujours plaisir. Puis je vous vois dans le prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, je vous encourage à le partager sur vos réseaux sociaux et à laisser 5 étoiles au podcast sur votre application d'écoute. C'est ce qui nous permettra de continuer à partager toutes ces informations et connaissances gratuitement avec vous. Je vous encourage aussi à me suivre sur LinkedIn, Radia, Abdi et sur Instagram, @keeprad. Toutes ces informations sont disponibles en barre d'infos. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite.